français entre les poteaux. Christophe Cessieux.
Salut à tous. L'image du plaquage du Sud-Africain Peter Cessieux sur Maxime Lecul il y a quelques semaines a fait le tour de la planète rugby. Action d'une rare violence qui a valu à son auteur une suspension de 12 semaines. Sanction jugée sévère par les uns, laxiste pour les autres. Et oui, car en matière de rugby, vous le savez, jamais facile de trouver un consensus. Pourtant, la violence dans notre sport fait débat au point que les dirigeants du rugby mondial envisagent même de changer quelques règles, notamment à l'entraînement. On en parlera. Alors, jusqu'où faut-il aller? Jusqu'à dénaturer ce sport dit de combat? Faut-il sanctionner plus sévèrement? Toutes ces questions, on se les pose dans la mêlée des poteaux, votre podcast préféré, où il sera également question de la rencontre qui a opposé ce week-end le Biarritz Olympique au Loup et qui a vu s'affronter deux frères avec le même numéro, le 9 dans le dos. Oui, mais un seul d'entre eux a été désigné frelon de la semaine. Il se nomme Baptiste Couillou et Lyonnais s'est rappelé au bon souvenir du sélectionneur en accomplissant un match plein face au BO. Peut-il être la doublure de Dupont lors de la tournée de novembre? On en parle là aussi. Et puis comme toutes les semaines, on s'intéresse aux dernières nouvelles de la prochaine Coupe du Monde. Gros plan aujourd'hui sur les Australiens qui ont décidé de modifier la sacro-sainte règle d'éligibilité pour la sélection. Ça va changer pas mal de choses, notamment pour les Wallabies évoluant dans le top 14. Les poteaux du jour, les voici, les voilà. Ils nous viennent de tous les coins de France. Ah oui, à commencer par le Toulousain Manu Massicard. Mais enfin, pas tout à fait Toulousain d'origine quand même. Salut Manu, comment ça va?
Très bien, et vous?
Patron du Midol, évidemment, notre partenaire. S'il a l'accent de son sud-ouest natal, il est pourtant aujourd'hui plus parisien que les Parigots. Voici Denis Charvet.
Messieurs, bonjour.
Tu as quand même toujours gardé un peu ton accent.
Oui,
un
toujours.
Peu le Jenny
Birkin du rugby. Je renie pas mon accent. Pourquoi je renierais mon accent?
Tu sais parler pointu, vas-y.
Non.
Non. C'est même pas la peine d'essayer. Jeff Paturo, lui, on peut pas se tromper. Son accent de Titi.
Ah bonjour.
Ah bonjour, il commence à voir. Et Julien Landry, c'est un drôle de mélange, lui. Hein. Moitié Bernay, moitié Montpellierin, mais 100% sudiste quand même.
Ouais,
hein.
À l'accent pointu, vous me demandez pas, je serais capable de vous le faire.
Salut Julien.
Salut messieurs. Et enfin, l'homme de l'Atlantique chez les poteaux se nomme Pierre Mich. Hello Pierrot.
Bonjour à tous.
Il n'y a pas d'accent à La Rochelle.
Non. Il est très léger. Non, par contre, on a des mots de vocabulaire un peu différents, mais il n'y a pas d'accent.
Messieurs, l'échauffement arrive à son terme. Voici la première mêlée. Elle s'annonce musclée. Oui, muscler notre mêlée à l'image de ce sport pratiqué à l'échelle professionnelle par des joueurs toujours plus costauds, toujours plus rapides, ce qui occasionne des chocs de plus en plus violents et destructeurs. Je le disais il y a quelques instants, l'image du plaquage de Peter Cessieux sur Loukou a fait froid dans le dos il y a quelques semaines. Même si le demi de mêlée bordelais a pu se relever sans bobo, il n'empêche, les conséquences auraient pu être dramatiques au vu de la violence de l'impact. Et ce n'est pas le seul choc qui a fait réagir ces derniers mois. On se souvient également du chaos de Ntamack en demi-finale du championnat ou du plaquage de Botia sur Médard en finale européenne. Bref, pas une semaine ou presque sans que l'on s'inquiète pour nos chers rugbymen. Julien, cette violence et ses impacts questionnent. Certains prônent une sévérité accrue pour les auteurs de tels gestes, tandis que d'autres estiment que le rugby étant un sport de combat, il faut en accepter les conséquences.
Oui, tout le monde a été choqué par ce plaquage, tu l'as dit, les deux pieds décollés du sol du deuxième ligne sud-africain de Castres, Rino Peter Cessieux, sur le demi de mêlée de Bordeaux, Maxime Loukou. Lui-même en l'air à la réception d'un ballon percuté au niveau du thorax. Loukou a évité le pire, lui-même a été choqué par cette action.
Quand j'ai vu les images, j'ai vu, putain, c'est pourquoi faire ça sur un terrain de rugby? Pourquoi faire ça à ce moment-là? J'ai plus le ballon. J'ai eu beaucoup d'énervement, quoi. Je me suis dit, pourquoi? Dans mon malheur, j'ai de la chance qu'il ne m'attrape pas la tête. Donc voilà, je vais bien, j'ai pas de séquelles, donc tout va bien. Donc, je suis vite passé à autre chose. J'avais pas envie de polémiquer là-dessus ou de déblatérer. C'est des choses que j'aime pas voir sur un terrain de rugby, mais bon, voilà, j'ai eu plus de peur que de mal, quoi.
12 semaines de sanctions, sanction la plus lourde jamais établie par un organe disciplinaire pour un plaquage, mais certains auraient aimé plus. Il faut dire que depuis le début de la saison, les plaquages violents se multiplient, celui du Rochelais Skelton, du Toulousain Técori ou du Palois Twimaba, avec à chaque fois la même ligne de défense, les excuses a posteriori et les circonstances atténuantes, un joueur qui se baisse, une différence de gabarit. Pour Bernard Dufour, ancien président de la commission de discipline, il faut remettre rapidement un tour de vis.
Il y a eu la Covid qui est passée par là, on sort, on est un peu énervé, il y a du public, on a envie de se remettre à jouer et les instincts reviennent de façon importante. Et on s'aperçoit que depuis quelque temps, le plaquage haut qui avait tendance à diminuer, eh bien on s'aperçoit qu'il est en train de remonter. Donc je crois qu'il faut remettre un tour de vis, c'est pas compliqué, hein. Il faut remettre un tour de vis. Voilà, il faut ressortir les cartons rouges au maximum et puis les circonstances atténuantes, mais peut-être qu'il faudra moins en parler des circonstances atténuantes.
Olivier Magne est sûrement le joueur qui a le discours le plus vindicatif, et parmi les anciens joueurs, il doit y avoir une prise de conscience des acteurs de ce jeu.
J'ai pas forcément envie de dire qu'il est plus dangereux, mais on a affaire à des comportements aujourd'hui de joueurs qui, de par leur nature, de par leur éducation rugbystique, pratiquent un rugby qui peut être dangereux. Donc j'en appelle à la responsabilité des joueurs, simplement pour que ce rugby reste un rugby où l'on peut pratiquer en toute sécurité. Ça tient beaucoup à l'état d'esprit des joueurs qui doivent absolument se prendre en main et ne pas plaquer d'une certaine manière qui pourrait mettre en danger le joueur adverse.
Christophe, la LNR n'a pas voulu réagir sur cette recrudescence de violence. Elle a juste laissé entendre que de son côté aussi, il y avait une prise de conscience et que les sanctions sur ces situations sont bien plus lourdes qu'avant.
Alors, les sanctions, Julien, ne sont pas les seules réponses que veulent apporter les dirigeants du rugby. Il est aussi question de prévention, notamment à l'entraînement, Julien, avec des idées un peu compliquées que tu vas nous expliquer.
Oui, la Fédération internationale a conscience des dangers de ces nouveaux plaquages. Et parmi ces multiples révolutions chaque saison, avec des changements de règles, on en a parlé, le 50-22, les renvois sur la ligne d'embut, World Rugby veut maintenant légiférer les entraînements. Pas plus de 15 minutes de plein contact lors des entraînements à balles réelles, comme les appellent les coachs, pour éviter les blessures, soit 6 de moins en moyenne que ce qui se pratique aujourd'hui. Selon eux, 40% des blessures surviennent lors des entraînements. Et concernant les séances dites contrôlées, avec bouclier, elles ne devraient pas dépasser 40 minutes et seulement 2 jours par semaine. Une nouvelle usine à gaz dans ce rugby moderne et dans les équipes surstaffées. Qui sera chargé de comptabiliser les minutes ? Le rugby reste vraiment un sport à part, messieurs.
Voilà, et les trois autres jours d'entraînement, on pense à introduire la marelle dans les entraînements de rugby.
C'est ridicule, hein.
Ouais, ridicule pour toi, Denis.
Ben oui, mais je pense qu'Olivier Magne a dit un truc très juste. Il parle d'éducation, et effectivement, c'est chaque fois des joueurs qui ont une culture ou une éducation qui est différente des autres. Il n'y a pas de hasard quelque part. C'est souvent les mêmes joueurs.
Ou les joueurs du Sud ?
Ouais, souvent. Mmh. On regarde, mais regardez les joueurs qui, ces plaquages dangereux.
Les Tongiens, les Samoans sont des coupeurs de tête, c'est ça que
ben
tu veux
dire ? Mais malheureusement, c'est de tout temps. Hein. C'est dans leur culture, dans leur ADN. Donc c'est ça qui est compliqué et complexe, parce que eux, peut-être qu'ils ne sont pas mis à la page du rugby d'aujourd'hui et de la dangerosité du rugby d'aujourd'hui. Donc, ouais, il faut remettre un petit peu de l'ordre dans tout ça.
Manu, toi qui suis les tournois du Sud, est-ce que tu as l'impression qu'il y a plus de violence dans le rugby championship ou dans les matchs justement entre les îles
On est sur ce défi homme à homme, buste tête et buste contre buste et tête contre tête. Là, oui, j'y vois du danger et évidemment que c'est dans une culture et dans une appréhension du duel qui est différente de la nôtre. Messieurs, ne confondons pas tout. Le plaquage de notre ami Castré sur le cou, il n'a rien à voir avec une manchette un plaquage à la tête. C'est un plaquage régulier. Il est certes à retardement, mais il n'est pas irrégulier dans sa forme.
Il est spectaculaire.
Il est à retardement quand même.
C'est ce que je viens de dire, Denis.
Oui, non, mais c'est pas jureux.
Il est à retardement. Il est spectaculaire parce que le joueur saute en l'air, mais il est en dessous de la ligne des épaules
Tu as déjà vu des plaquages comme dans ton histoire.
C'est pas parce qu'il est qu'il est par rapport aux épaules que tu.
Mais il est régulier, pas extrêmement dangereux. Il est réglementaire sur la zone d'impact. Je suis désolé.
Je suis d'accord avec toi.
Regarde-le. Tu te trompes.
Mais justement, le coup, il a raison. Il dit. C'est à la tête,
il est 10 cm dessus, tu auras raison. Là, il est dessous et la seule chose, c'est que tu touches à l'émotion parce que ça intervient il est spectaculaire et la deuxième chose, c'est qu'il est à retardement. C'est en dehors de ça, il est légal.
Manu, est-ce que tu te souviens d'un plaquage de ce niveau-là quand même ? Moi, tu vois, je l'ai vu plein de fois. Un plaquage comme ça, quelqu'un qui saute en planche sur un joueur. Alors, je veux bien qu'il soit légal, mais j'ai pas de souvenir d'un joueur qui a fait ça.
Comment il s'appelait, le deuxième ligne anglais sur notre ami Plisson en Angleterre.
Lowe. Oui, mais
là, il est extrêmement violent, Manu.
Exactement, Manu. C'est le problème, c'est au niveau de l'impact. On ne parle pas de la même chose. Il y a justement les épaules.
Arrêtons le rugby.
Il a pris 12 semaines quand même.
Exactement.
Il s'en est pris.
Oui, alors il a pris 12 semaines, mais la sanction initiale était de 24 semaines.
Oui, mais c'est normal que le casier judiciaire
trouve des circonstances d'atténuation.
Non, c'est la loi qui veut ça. Tu es obligé de.
C'est pareil en justice. En justice, c'est pareil. Si t'as un casier, tu vas prendre plus cher.
Son casier était vierge, il a pris 12 semaines.
Après, on a entendu
son casier était vierge, il a présenté des excuses. Tout ça, ce sont dans les règlements, certes anglo-saxons, mais enfin, depuis quelques années, les commissions disciplines françaises appliquent les règlements à la lettre. C'est plus au doigt mouillé comme avant, ça pouvait être pendant longtemps. On s'en félicite aujourd'hui, et maintenant on se dit, oh, merde, il prend que 12 semaines. Alors, il fallait dire... Le plaquage était dangereux, on considère que ça vaut plus de 24 semaines, et ben il aurait eu.
Oui, c'est ça.
Voilà, c'est tout. En fait, c'est le niveau d'entrée qui est important.
Non, mais Manu, on a entendu Bernard Dufour dans le sujet que j'avais rencontré cette semaine. Il me racontait que la prise de conscience, c'est après le barrage Montpellier Racing, où sur ce match-là, il décombre 9 commotions cérébrales. Alors qu'ils sont pas toutes dénombrées sur le match-là.
Mais tu en as moins aujourd'hui, c'est vraiment qu'il y a une prise de conscience.
Parce que Bernard Dufour dit, il faut refaire un tour de vis, et justement, ces circonstances atténuantes, ces excuses a posteriori des joueurs qui disent je m'excuse d'avoir plaqué, il faut arrêter, il faut remettre un tour de vis, et que ces plaquages là les plaquages à l'épaule, il faut rouge directement remettre un peu de clarté.
Le Castré a repris rouge,
il faut remettre un petit peu de sévérité peut-être pour que les joueurs
j'étais de ton avis, je disais il y en a ras-le-bol de ces joueurs qui s'excusent, ils font tous pareil, c'est dans leur règlement. À partir du moment où ils s'excusent, il y a une réduction de la peine.
Oui, mais c'est un règlement qu'il faut changer.
Ça c'est ridicule pour le coup.
On est bien d'accord.
Ça veut dire que tu peux découper la tête d'un joueur et dire je m'excuse.
Denis, Bernard Laporte va bientôt être candidat à World Rugby, on suppose. Et ben il faudra changer cette règlement.
Bien sûr, mais aujourd'hui c'est pas un problème français.
Je suis d'accord que le règlement il faut le changer, il faut qu'il évolue, c'est évident.
Après, je suis d'accord avec vous sur les manchettes, je suis d'accord avec vous sur les plaquages hauts, mais sur le castré, acceptez l'idée que ce soit un spectaculaire et donc que ça touche à l'émotion, mais qu'il n'y ait pas une autre faute que le
paragraphe. Si vous sortez un peu de l'émotion, sur les dernières années, les sanctions sont plus lourdes qu'auparavant pour ces gestes-là, et il n'y a pas beaucoup plus de plaquages dangereux qu'auparavant. Sauf que maintenant, c'est vrai que celui-là attire l'attention parce qu'il est très spectaculaire et différent des autres, mais on tombe dans une affaire médiatique. Pour moi, maintenant, il n'y a plus de recul. Il est condamné, il faut qu'il prenne le maximum.
Non, mais je ne suis pas d'accord avec toi.
Il y a eu des accidents,
tu vois les images, c'est pas que spectaculaire, ça te froid dans le dos. Tu vois le Botia avec Médard,
c'est différent, Denis.
Non, c'est pas différent.
Si, c'est différent.
Le problème, juste,
j'ai plus de plaquage dangereux. Je suis désolé, moi j'ai
pas pu vous faire écouter le Kélian Galtier que j'ai aussi rencontré cette semaine, et qui lui a été victime d'un chaos contre Toulon, un chaos qu'il n'a pas senti sur le coup, un plaquage. Il m'a dit, j'ai pris le chaos du boxeur au niveau du menton, un plaquage comme il peut y arriver souvent toutes les semaines au rugby, sauf qu'à posteriori, le neurologue a trouvé une tache au niveau du cerveau, qu'il s'est arrêté 6 mois et qu'on lui a même conseillé peut-être d'arrêter le rugby. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre conscience que ce que me disait Kélian, c'est que il y a 20 ans, c'était pas des athlètes, et qu'aujourd'hui, les joueurs sont de plus en plus entraînés, de plus en plus développés, qui font de plus en plus de musculation, et que les chocs qu'ils prennent aujourd'hui sont 20 fois plus importants que ce qu'ils pouvaient prendre à l'époque, et qu'il faut peut-être légiférer et donner un tour de vis sévère en disant que chaque plaquage au niveau de l'épaule aujourd'hui, c'est carton rouge, et que peut-être que les joueurs remettront un petit peu de sérieux et baisseront la ligne de plaquage.
Là où je vous rejoins, c'est que je ne sais plus qui en parlait, déficit d'éducation et de technique de
plaquage. Olivier Magne.
Ça aussi, c'est important. Le nombre de joueurs qui arrivent sur la zone de plaquage, la tête en avant ou la tête du mauvais côté, je suis désolé. Peut-être qu'il y a 20 ans, tu avais moins de chaos parce que les mecs savaient plaquer. Et aujourd'hui, tu vas être tellement dans la collusion qu'il y a un déficit de technique qui me paraît évident.
Non, mais moi, les joueurs vont plus vite, les joueurs sont plus puissants. La technique de plaquage a un sens, c'est vrai, ça peut avoir une incidence sur les commotions, parce que c'est pour ça qu'on a légiféré, c'est parce qu'on s'est rendu compte que 70% des commotions étaient suite à une situation plaqueur-plaqué. Donc on s'est dit, c'est trop dangereux, d'autant que les commotions, aujourd'hui, on ne mesure pas l'impact qu'elles vont avoir sur les gamins ou les joueurs qui évoluent à l'heure actuelle. Ça se trouve, à 50 ans, ils ne pourront plus manger autre chose que de la soupe ou aller aux toilettes tout seul. Et pour l'instant, on n'est pas capable de le dire. Mais il faut quand même distinguer le rugby qu'on pratique aujourd'hui avec l'agressivité nécessaire pour gagner un match et la violence. Aujourd'hui, ces plaquages-là sont terribles, sont spectaculaires, mais on a quand même un rugby qui est beaucoup moins violent qu'il y a ne serait-ce que 30 ans. Il y a 30 ans, rappelez-vous, on mettait des coups de pompe dans la gueule à des gars par terre. Il y a quand même des joueurs. Il y a un joueur, Denis, tu le connais, qui a perdu un testicule quand il a affronté ton équipe. Enfin, les conséquences physiques étaient quand même déjà dramatiques. Aujourd'hui, ce qui touche, c'est évidemment que ça touche à la tête et qu'on ne peut pas mesurer les conséquences. Mais quand on me dit la technique de plaquage, etc., oui, mais le jeu a évolué. Aujourd'hui, prendre un joueur aux jambes, c'est lui donner une possibilité de faire une passe après contact et se mettre en difficulté. Ce qu'on apprend aux joueurs aujourd'hui en top 14, c'est d'être capable de bloquer les bras. C'est normal qu'un gars comme Botia en finale de Coupe d'Europe, quand il veut marquer son adversaire et qu'il rate, eh ben il défonce la gueule d'un type en face. Et ce rugby-là, on l'a accepté parce qu'aujourd'hui, on tolère les plaques on tolère les plaquages au-dessus des hanches. Peut-être que dans 10 ans, on fera du flag et que tout le monde sera très content. Aujourd'hui, le rugby, les joueurs qu'on a, les règles qu'on a, c'est impossible de faire un match. C'est impossible de faire un match sans avoir des joueurs blessés. C'est impossible.
Regarde le football américain qui a évolué aussi au niveau de ses règles aussi. C'était très très dangereux. Mais là où je te rejoins, c'est qu'il y a 30 ans, il y avait autant de chaos. Et le problème, c'est qu'on les signalait pas.
Il n'y avait pas de protocole.
Donc, voilà. Il y avait pas de protocole.
Il y a eu des évolutions.
Ouais, mais là où je suis d'accord, c'est que c'était très dangereux. Il n'y avait pas de prévention comme aujourd'hui.
Et puis il y avait une vraie méchanceté, une vraie violence. Aujourd'hui, il n'y a plus de bagarres. Il y a plus de. Les morsures sont rarissimes. Les coups de poing dans la gueule, ça n'existe plus.
C'était mieux avant, Pierre.
C'était mieux avant.
Pierrot, tu vas prendre ma place. On sent que t'es nostalgique là. On sent qu'il y a la nostalgie.
Est-ce que vous avez, une solution, s'il en existe une, pour justement essayer de diminuer ce genre de choses? Est-ce qu'il faut que le rugby se dénature complètement, change ses règles du jeu, ne soit plus un sport de combat, de contact? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Bernard Dufour, lui, il demande de la clarté. Et clairement, aujourd'hui, ce qu'il demande, c'est un tour de vis, c'est-à-dire que tout ce qui est plaquage au-dessus de la ligne d'épaule, c'est carton rouge, et que les équipes qui évoluent à 14, alors sauf Pau cette saison qui gagne toujours à 14 contre 15, mais voilà, en se disant que si tu sanctionnes toujours d'un carton rouge un joueur qui va plaquer au niveau de la ligne d'épaule, et les joueurs d'eux-mêmes vont se raisonner.
Moi, je crois qu'il faut faire beaucoup de prévention aujourd'hui, beaucoup par rapport à l'éducation, on en parlait. Je crois que c'est nécessaire qu'il y ait un vrai travail.
Donc, quand les joueurs arrivent du sud, tu les prends en formation pendant une semaine.
C'est les clubs qui doivent les former, les leur apprendre la culture de notre rugby.
Ouais, enfin, nous, on veut protéger. Le plaquage de Tékori, ça fait combien de temps qu'il joue en France?
Mais Tékori, il vient d'où?
Oui, mais depuis quand il est en France?
Oui, mais il est dans la culture, c'est l'ADN. Ouais. Je parle d'un truc qui est l'ADN. C'est contre nature de pas faire ce qu'ils font. Donc, si tu veux, tu regardes Botia, tu regardes Seteni quand tu es en demi-finale, c'est la même chose.
Ça fait 10 ans qu'ils sont là, Denis, quand même, au bout d'un moment.
Mais d'accord, mais bon, 10 ans, c'est eux qui font ces plaquages dangereux, malheureusement.
Et nous, on veut mettre des cartons rouges ici parce qu'il faut mettre un tour de vis. Et dans le même temps, l'hémisphère sud, ils se battent pour que le carton rouge ne soit que 20 minutes dehors.
C'est ça.
C'est-à-dire que l'éducation qu'on va pouvoir transmettre, elle est quand même assez limitée. Et puis, si on est les seuls Mohicans à se dire, nous, ça va être un tolérance zéro et tout, et que dans le même temps, que ce soit dans tous les autres pays du monde, en Angleterre, au Fidji, au Samoa, en Nouvelle-Zélande, en Australie ou en Afrique du Sud, les plaquages à la carotide, ça reste, c'est dans l'esprit. Bon, on va avoir un peu de mal à imposer notre règle.
Ouais,
ça
aura des bons vieux. Dur.
Ouais, c'est ça. Nous, on aura les meilleurs vieux. On gagnera les matchs vétérans.
On gagnera tous les coups.
On aura des consultants comme Denis Charvet qui auront encore toute leur tête à son grand âge.
Et pas voilà, sûr, hein, voilà ce qu'on veut.
Tu l'avais plus à 20 ans. Donc, ça, c'est un
autre problème. Faire des tests, on verra.
Dossier ô combien sensible dont on reparlera évidemment lorsque l'actu le demandera. En attendant, on va s'intéresser à deux frangins qui ont donc fait l'actu de l'Ovalie ce week-end. Deux frères qui n'ont que 19 mois d'écart, qui arborent fièrement tous les deux le numéro 9 au dos de leur maillot et qui ce week-end étaient donc adversaires. Barnabé Le Biarro, opposé à Baptiste Le Lyonnais, affrontement qui a tourné à l'avantage de l'aîné des frangins, Baptiste Couillou, désigné frelon du week-end.
RMC, entre les poteaux,
lancé comme un frelon.
Oui, c'est le plus vieux des deux frères. À ce titre, il a pu rester chez lui dans son club de cœur et de formation, le Loup, l'équipe lyonnaise qui est allée chercher sur la pelouse du Beau une large victoire ce week-end. 40-5, dont 15 points signés Baptiste Couillou, auteur de 3 essais. Pourtant, vous allez l'entendre, il n'était pas vraiment serein à la veille d'un match assez particulier pour lui.
J'avais beaucoup de pression, encore à 2h du matin. J'étais debout à marcher autour de l'hôtel pour essayer de me fatiguer un petit peu et de trouver le sommeil. Mais ça s'est bien passé sur le terrain. Moi, j'avais vraiment à cœur de pas le lâcher. Hein. C'est l'instinct du grand frère aussi, je pense. En tout cas, c'était un beau moment pour nous. Je suis content de me retrouver au même niveau que lui et d'avoir l'occasion de vivre ce genre de moment. Je pense que à la fois pour moi et pour ma famille, c'est merveilleux.
Vous pensez que Baptiste aurait pu faire un plaquage à la Peter C sur son frère dans un match comme ça?
Ils ont pas le même gabarit quand même.
Ah non, c'est sûr, c'est une demi-mêlée. Mais bon, voilà, là aussi, quand tu affrontes quelqu'un de ta famille, ça doit pas être évident de le paquer de la même manière. Alors, c'est pas tous les jours quand même qu'on affronte son jeune frère sur une pelouse, surtout lorsque celui-ci occupe le même poste. On peut comprendre la nervosité de Baptiste, mais celle-ci s'est envolée, Jeff, une fois le coup d'envoi donné, et les deux frangins ont ensuite pu se chambrer gentiment.
Hein. Ouais, c'est ça, effectivement, il y avait pas mal d'apprentissage. On l'a entendu, une mauvaise nuit, ça a été compliqué pour se mettre dans le bain. Ils sont rentrés tous les deux en premier sur la pelouse d'Aguilera, du chambrage, puisque je cite, voilà ce que disait Baptiste Couillou à propos de son frère suite au match. Il a toutes les qualités d'un bon footballeur. Pourquoi ? un petit tacle par derrière, une petite simulation et un bon jeu au pied. Ça vous met dans l'ambiance, sa chambre. Et c'est vrai que les repas entre demi de mêlée, ça va être plutôt sympa chez les couillous, l'ambiance. Il va pas falloir piquer le pain de l'autre. Et ce week-end, ça s'est vu sur le terrain, en tout cas, que Baptiste avait encore un temps d'avance à l'image du loup, puisque l'international oui, sélection a parfaitement maîtrisé son sujet contre des Pierrot, tu l'as dit, totalement dépassé. Barnabé Couillou, lui, est resté 51 minutes sur la pelouse et ça s'est pas très bien passé. Pour Baptiste Couillou, trois essais dans des styles très différents, dont un à la Dupont. Quand vous dites ça, ça tout le monde fait « Waouh, un essai à la Dupont !» Et plus globalement, une prestation aboutie. C'est vrai que le numéro 9 du Loup a forcément marqué des points à un mois maintenant de la tournée contre l'Argentine, la Géorgie et la Nouvelle-Zélande. Lui, à chaud, il l'a joué modeste. On l'écoute.
C'est une belle satisfaction collective, surtout. En tant qu'équipe, on était venu chercher un résultat. On était très remonté après notre prestation de la semaine dernière. Donc, hyper satisfait de ce qu'on a fait sur le terrain, de l'état d'esprit. Je pense qu'on a été très présent en défense et on a pris le score très rapidement. Ça leur a fait du mal, ouais.
Et c'est vrai que ça a fait très mal pour cette équipe du Biarritz Olympique qui a été décimée par les blessures. Les Biarrots n'ont pas vu le jour et à quelques jours de l'annonce du groupe pour cette tournée, Baptiste Couillou a démontré qu'il était en forme internationale pour le deuxième triplé de sa carrière, le deuxième après 2018 contre Agen.
Donc là, tu es en train de nous dire, Jeff, qu'il peut devenir la doublure officielle de d'Antoine Dupont.
Ce serait une surprise, ça.
Bah, heureusement, d'ailleurs.
Non, mais je sais pas, il y en a d'autres.
Ah, qui... Il n'y en a pas beaucoup d'autres.
Non, c'est vrai que c'est le mieux passé pour le numéro 2 des numéros 9.
Si Serein est blessé.
Attends,
il
n'y
a pas de doublure. Antoine Dupont, il joue 80 minutes tous les matchs, donc on est tranquille.
Oui, c'est vrai. Si vous rappelez le nombre de minutes qu'a joué Baptiste Serein lors du dernier tour de destination, c'est vrai que la doublure, normalement,
arrange pas grand chose.
Baptiste Serein est blessé. Couillou, lui, était trois fois titulaire cet été face au Wallaby. Ça s'était plutôt bien passé. Avec clairement un temps d'avance sur les autres. C'est qui les autres, vous allez me dire? C'est ce que disait Denis. Il y en a un qui était en Australie, Teddy Eribaren.
Ah oui.
Vous allez me dire, bah non, il est totalement cramé en ce moment, il n'avance pas trop, c'est une mauvaise passe. Et la grosse cote, la grosse cote, non plus, plus tard encore, encore quelques mois, tournée 2023, tout le monde nous dit c'est Nolan Le Garec. Ce sera peut-être l'OVNI pour 2023. C'est un super joueur, le Racing Man. Nolan Le Garec, c'est vrai que c'est un nom de Palois, c'est vrai. et l'autre rival pour Baptiste Couillou, c'est évidemment Maxime Lucu qui joue à l'UBB, 28 ans, zéro sélection, qui aurait dû faire la tournée cet été, sauf qu'il a déclaré forfait à la dernière minute après la demi-finale perdue. Forcément, une déception. On l'écoute, c'était au micro de Nico Paolorsi.
La déception, elle a été double parce que c'est un rêve de gamin de porter le maillot. J'avais l'opportunité sur les trois matchs de pouvoir peut-être espérer une feuille de match. J'ai eu pas mal de larmes, voilà, comme on a pu le dire, et ça a été une grosse frustration parce que au vu d'une saison comme ça, j'avais l'impression que je pouvais mériter un maillot bleu. Ça n'a pas été le cas, donc voilà, ça a été dur à digérer, mais il faut réitérer les performances, comme ils me disent. Il faut être bon tous les week-ends pour montrer que t'as la chance ou tu mérites d'être en équipe de France.
Être bon tous les week-ends pour devenir la doublure d'Antoine Dupont, c'est désormais l'objectif, tout simplement, pour Baptiste Couillou, pour Maxime Lecu, réponse dans quelques jours.
Voilà, merci, c'était tout à fait complet, mon cher Jeff. Comme vous le disiez, messieurs, il n'y a pas vraiment besoin de doublure pour Antoine Dupont. Enfin,
oui.
on espère, évidemment, on croise les doigts, hein, parce qu'il ne faudrait pas non plus...
Oui, mais il y a eu juste en cas de blessure, on ne sait jamais. Enfin, je veux dire,
ça arrive, on ne souhaite
pas, ça arrive. Oui, voilà, même une petite blessure qui empêcherait de jouer. Donc, il faut qu'il y ait un joueur performant derrière. Et c'est vrai que lui, il est quand même très étonnant, parce qu'il a été gravement blessé, il est revenu à son plus haut niveau, et là, vraiment, il a franchi un cap. En Australie, il a été très très bon. Il n'est pas surprenant, on connaît ses qualités-là, mais en tout cas, il est revenu à son plus haut niveau.
On en revient à ce problème générationnel qui est quand même incroyable. On n'avait pas de 10 et pas de 9 pendant 10 ans, et là, on se retrouve avec Jalibert, Tema Candice.
Non, mais c'est vrai.
Non, mais là encore, en 9, après Dupont, on est en train de se poser des questions. Couillou, il est très bon.
Avec Montpellier, là. Tu nous parles de Montpellier, là.
Non, mais c'est quand même incroyable, les problèmes de riche qu'a Fabien Galthié pour faire des choix. Il a quand même la chance de se dire.
C'est plus confortable.
Là, on est en train de fabriquer l'équipe bis, en fait.
Non, mais on se rend compte quand même qu'il y a une génération qui pousse derrière, qui est quand même assez exceptionnel.
Puis on l'avait vu à l'Open Nations Cup où, de mémoire, on n'était pas d'accord avec Manu sur le contenu du match de Couillou, où tu l'avais trouvé très mauvais et moi je l'avais trouvé plutôt bon. Et je suis assez content de le voir revenir et d'avoir une chance en équipe de France, parce que c'est un registre un peu différent, peut-être moins puncher que Dupont, mais il pèse beaucoup quand même sur les défenses.
et c'est un très bon mec. Et ce qui fait que dans un groupe, c'est quand même pas désagréable d'avoir
alors,
un numéro 2.
Si il suffit
qui est
d'être
pas...
d'un très bon mec pour être en équipe de
j'ai
France.
J'ai commencé par dire qu'il était bon.
Ouais, bon on y va. Moi, je t'en connais plein si tu veux. Ouais,
moi, je serais pas avec
l'équipe de France.
Moi, j'y serais. Moi,
voilà.
Je pourrais y
Julien,
avec l'équipe
il serait,
de France.
Mais toi, ah ouais, non.
Non, mais Kouyou, c'est un puncher avant tout. C'est pas Dupont, c'est pas le même style, mais il a la vista. Il a la vista, la clairvoyance.
Acceptez l'augure qu'il y ait une différence entre le top 14 et le niveau international. Baptiste Kouyou a fait un très bon début de carrière. Il a eu du mal l'année dernière.
En tant que capitaine en plus.
En tant que capitaine à Lyon. C'est pour ça qu'il n'a plus le capitanat. Là, il sort. Je trouve que ce joueur est hyper doué. Je ne voudrais pas être trop critique à son égard. Mais relativisons quand même le match qu'il a réalisé face à son frangin dans un contexte émotionnel qui est particulier et contre Biarritz, qui est un promu qui est totalement passé à côté. Donc, je lui souhaite de réitérer évidemment de nombreux matchs comme ça. Il fera partie de ces joueurs qui vont challenger Antoine Dupont jusqu'à la Coupe du Monde, comme Loukou et comme le Garek. Ouais, mais... Il y en aura peut-être encore d'autres, hein, des gamins qui poussent, il y en a. Et je pense qu'il faut regarder dans cette liste-là.
Ouais, mais tu es obligé de penser à ce qu'il a fait ou à réfléchir à ce qu'il a fait en Australie quand même. Tu me parles de Biarritz, oui, c'est Biarritz a été écrasé devant, mais il a fait quand même une très bonne tournée.
Il a fait une bonne tournée en Australie.
Très bien, nous étudions comme ça toutes les semaines les postes pour la liste de Gatier. On en sait un peu plus.
Nolan Le Garek. Hein.
C'est, oui, c'est Noël, ça. Le Garek, avec un nom
sélectionné avec les barbariens français. Hein. Voilà, au passage.
Bon, la liste, c'est officiel, ça y est, il est officialisé.
La liste, l'annonce de la liste est officielle là aussi, Jeff, ou pas encore?
Bientôt, il y aura une date.
Bientôt.
Il y aura une date en plus. Ouais.
C'est... Moi, Fabien Galthié m'a dit le 19.
Ouais, nous on avait dit le 19.
Qui fait la sélection?
Avec Denis Charles.
Mais Fabien Galthié.
Et le comité de sélection.
Denis fait partie du comité de sélection.
J'ai un colloque, il m'a dit de Fabien.
C'est fini cette histoire. On voit la liste. Les joueurs.
Fabien m'a appelé, il était très gentil, il m'a dit on voit la liste le 19.
Le 18 ou le 19?
On m'a dit le 19, donc peut-être que c'est le 18.
Peut-être que c'est le 18 et qu'il l'enverra le 19 à Denis, au cas où il n'est pas internet.
Moi, je vous assure que j'ai pas inventé ce chiffre, donc
très bien.
Et donc, il y a le joueur du président ou pas, Denis? Tu peux choisir un ou deux joueurs du président?
Non.
T'as pas le droit.
Il veut rien dire là. Il a sa tête de poker face.
Quel mauvais menteur.
On lit. Tu joues poker. On lit sur son visage. Mais si on passe.
Je voulais donner le Garek quand même.
Denis, c'est du off.
Donner la date en plus avec ça, on est bien barré.
Il joue à Pau, tu nous as dit. On est mal barré.
Denis, c'est du off. Tu peux tout nous dire, Denis.
Alors, je vais te dire pourquoi je dis à Pau, parce que j'appelle tout le monde en ce moment. Donc, je sais plus si c'est à Pau, à Biarritz.
Mais qui fait la compo alors? C'est toi ou
moi, avec un entraîneur qui s'appelle Xavier Garbajosa, qui va être l'entraîneur des Babas. Avec Christian Labitte, de l'entraîneur de Carcassonne.
Et Fabien Galthié, il fait quoi?
Rien. Il nous aide à réfléchir.
D'accord.
Et il te dit, tu prends pas celui-là, tu prends
non,
pas celui-là.
Non, pour l'instant, il peut rien me dire, justement. Justement. Au contraire, il peut pas me dévoiler des noms que je pourrais vous donner aujourd'hui, parce que j'en ai aucun.
On va essayer de le travailler au corps encore.
C'est la vérité, je vous assure.
Je suis sûr qu'on aura quelques petits
points.
T'as pas mangé le bon président Laporte.
Sans Fabien Galthié, je peux t'en donner 36 noms, ou 37.
Ouais, mais puisque t'as appelé les Palois, t'as appelé qui à Pau?
Tu connais le qui c'est que ça l'occupe à Pau? De l'entraîneur, non?
Pas du tout.
Ah bon, tu liras le middle, tu verras.
Allez messieurs, on passe tout de suite au French Cancan, les dernières nouvelles de la prochaine Coupe du Monde, notre Coupe du Monde à nous, oui. On en parlait la semaine dernière, c'est désormais officiel, l'Uruguay disputera donc la prochaine Coupe du Monde, aura le redoutable honneur d'affronter la France et la Nouvelle-Zélande. L'Osteros, vainqueur des États-Unis en barrage retour de la zone Amérique, les États-Unis qui ont, comme nous l'a expliqué la semaine dernière Pierrot, encore une chance au grattage et peut-être encore au tirage, puisque tout n'est pas encore terminé pour espérer rejoindre la France en 2023. Autre info, elle concerne cette fois-ci la sélection australienne, les Wallabies qui ont décidé, Pierre, de changer les règles en matière d'éligibilité pour la sélection. Du coup, ça rouvre des portes à des garçons qui pensaient ne plus jamais porter le maillot orange des Wallabies.
C'était une mesure prise en 2015 et que la fédération australienne voudrait supprimer. La règle était simple, n'était sélectionnable pour les Wallabies que les joueurs évoluant au pays ou les joueurs évoluant à l'étranger mais ayant au moins 60 sélections. Cette règle avait été nommée la loi Guito puisqu'elle permettait alors aux Toulonnais de disputer le mondial 2015 tout comme Drew Mitchell ou encore à Nick White en 2019 de faire partie de l'aventure. Mais depuis, l'Australie a dégringolé au classement World Rugby, pointant même au 7e rang mondial en mars 2020. Et cette semaine après deux déroutes dans le rugby championship, 38-21 et 55-22 face aux Blacks, les Wallabies devraient abroger cette règle et se tourner vers leurs étrangers, notamment les kangourous français, parmi eux Skelton, Rory Arnold ou encore le talonneur du stade français Tolu Latou. Une situation inattendue pour les employeurs français des Australiens. Illustration avec Julien Arias, partagé sur l'éventualité de prendre ses joueurs majeurs pour la prochaine tournée.
Pour lui, c'est une bonne nouvelle, évidemment. Nous, on est mitigés, on est partagés, parce qu'on est content pour lui. C'est quand même une sélection nationale, c'est l'Australie. Ça fait un moment qu'il n'a pas été sélectionné. Et c'est vrai que d'un autre côté, voilà, c'est pareil, c'est un de nos joueurs cadres. Voilà, c'est toujours dur de remplacer ce genre de joueur. Mais comme je l'ai dit précédemment, personne n'est irremplaçable. Et en espérant que d'ici là, l'équipe soit mieux et que ça permettra à un autre joueur de prendre la place et de faire ce qu'il faut pour le collectif.
Côté les amendements possibles, eh bien évidemment, ce serait d'abord la supprimer purement et simplement, l'abroger en réduisant le nombre de sélections minimum ou attendre. Mais cette dernière possibilité est très faible parce que la fédération australienne est en pleine crise économique et que ça paraît désormais impossible de payer les meilleurs joueurs au meilleur tarif en Australie.
Les Wallabies n'ont plus les moyens aujourd'hui de se passer de leur star expatrié, Denis. C'est une décision logique pour toi?
Heureusement qu'ils ont changé ce règlement, cette règle plutôt. Et en tout cas, avec Skelton Arnold en seconde ligne.
C'est plus la même équipe.
Plus la même équipe. Et Latou qui est un drôle de gars.
C'est un des meilleurs talonneurs du championnat.
C'est un des meilleurs talonneurs au monde, même, je pense, aujourd'hui. Ça a changé le pacte australien.
Est-ce que ça peut avoir des répercussions en termes d'exil, Manu, une recrudescence de départ de l'île continent vers l'Europe? Est-ce qu'elle est à craindre ou elle est à espérer pour le championnat de France?
Ouais, je crois qu'on va rester comme ça. Je vois pas le nombre de joueurs. On est à deux ans de la Coupe du Monde, ça va pas. Je vois pas trop bouger les Australiens.
Et puis tout le monde se plaint déjà de payer les joueurs quand ils sont pas là. Donc
c'est ça.
C'est pour des Australiens qui sont jamais là durant la saison, c'est pas terrible non plus.
Puis faudrait presque le souhaiter pour l'Australie parce que c'est quand même l'équipe internationale qui a le plus petit vivier au niveau mondial. Perdre leurs meilleurs joueurs 6 mois de l'année, ce serait pas une grande nouvelle, mais ça permettrait peut-être l'émergence de jeunes talents parce qu'on pense à Petaia. Peut-être que sans le départ en Europe de quelques grands centres comme Curry Drani ou d'autres, il aurait peut-être pas eu sa chance aussi vite. Et il ne faut pas oublier que l'Australie fait que son système permet à des jeunes de 18, 19, 20 ans d'être extrêmement performants très vite. Donc finalement, qu'ils restent ou qu'ils partent, ça restera une bonne équipe des Wallabies pour la Coupe du Monde.
Finalement, il ne reste plus que les All Blacks qui ne sont pas revenus sur ces règles. Là, si tu quittes la Nouvelle-Zélande, tu n'as plus aucun espoir de porter le maillot noir, Jeff.
Ça
reste encore en place.
Beaucoup de joueurs expatriés.
Ils partent, en fait, ils peuvent partir au Japon quelques mois. Ouais. C'est ce qu'ils font.
Ils ont le droit de partir.
Ils partent quelques mois au Japon, ils sont aussi
riches que nous,
ils deviennent aussi riches que Denis Charvet et après ils rentrent au pays.
Non mais aujourd'hui, quel est All Black qui serait expatrié, qui serait susceptible de jouer avec les Blacks?
Un All Black qui vient jouer en top 14 le avant de faire une Coupe du Monde.
Mais c'est arrivé par le passé. Car Lehmann, quand il arrive en France, c'était le meilleur pilier droit du monde. Il aurait dû être chez les Blacks et il a préféré prendre un petit peu de sous et gagner des trophées avec Toulon.
Un petit peu beaucoup.
Merci messieurs. Voilà pour aujourd'hui. C'est terminé. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. On va peut-être petit à petit rentrer dans cette tournée qui approche. On vous le rappelle. Le premier match face à l'Argentine, ce sera le 6 ou le 8 novembre, j'ai un doute. Sans demander à Denis pour les dates.
Non, mais c'est Jeff qui est dans
le 6 novembre, voilà. Bonne semaine, à la semaine prochaine, les potos. Ciao, ciao.